Le premier, dans le premier livre des rois, au chapitre 3. Alors pour ceux qui voudraient utiliser la Bible bleue devant vous, c'est à la page 329. Un roi, chapitre 3. Ce sera pour le deuxième texte dans l'épître de Jacques, mais nous y viendrons dans quelques instants. Je vous propose donc de suivre avec moi, ou d'écouter simplement si vous préférez, la lecture de 1 roi, chapitre 3, et nous lirons les versets 1 à 14. Salomon s'allia par mariage avec le Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du Pharaon, et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa propre maison, la maison du Seigneur et le mur d'enceinte de Jérusalem. Cependant, le peuple sacrifiait dans les hauts lieux, car jusqu'à ce temps-là, on n'avait pas bâti de maison pour le nom du Seigneur. Salomon aimait le Seigneur et suivait les prescriptions de David, son père. Cependant, lui aussi offrait des sacrifices et de l'encens dans les hauts lieux. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en rêve à Salomon. Dieu lui dit « Demande ce que tu veux, je te le donnerai. » Salomon répondit « Tu as agi avec une grande fidélité envers ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait devant toi en suivant la voie de la loyauté, de la justice et de la droiture de cœur envers toi. Tu as gardé envers lui cette grande fidélité et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. » Maintenant, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Je ne suis qu'un petit garçon, je ne sais rien faire. Je suis au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux qui ne peut être ni évalué ni compté, à cause de son grand nombre. Donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. Qui donc pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif à l'équité, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura jamais eu avant toi et qu'il ne se lèvera jamais plus après toi, personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant tous tes jours aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu suis mes voies, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Alors je vous propose de marquer cette page, si vous le voulez bien, d'une façon ou d'une autre, et de lire maintenant dans la lettre de Jacques, donc dans le Nouveau Testament, au chapitre 1, les versets 5 à 8, et c'est à la page 1183 des Bibles bleues. Page 1183, Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8. À partir du verset 5, donc. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Nous arrêterons là la lecture de la parole. Et je vous propose de revenir à la page que vous avez marquée, donc dans 1 roi. La question que nous voulons nous poser ce matin, elle est double. Quelle est cette sagesse que Dieu accorde et comment pouvons-nous l'obtenir? Et on va essayer d'y répondre en trois temps. Désirer la sagesse, demander la sagesse et cultiver la sagesse. À l'impératif ou à l'infinitif, comme vous le voulez, ça marche dans les deux cas. Désirer la sagesse, donc, en premier. Je reviens donc à notre premier texte. Nous sommes au Xe siècle avant Jésus-Christ, quelque temps après la mort du grand roi David, et c'est son fils Salomon qui règne désormais à Jérusalem. Alors, en tant que roi d'Israël, Salomon est directement concerné par l'alliance que Dieu a conclue avec ce peuple au temps de Moïse dans le désert du Sinaï. Une alliance qui a d'ailleurs été renouvelée avec le père de Salomon, David. Et Dieu a précisé que c'est un descendant de David qui deviendrait le Messie, c'est-à-dire le roi sauveur qui devait venir pour Israël et au-delà pour tous les peuples. Alors Salomon est un personnage biblique assez connu. Et quand on évoque Salomon, on a tendance à diviser sa vie en deux parties très nettes. Il y a le Salomon fidèle et sage du début de sa vie, et puis le Salomon polygame, idolâtre, qui a mal terminé. En général, c'est plutôt l'inverse, on est censé devenir plus sage avec l'âge, mais pour Salomon, en tout cas, on a tendance à penser que c'est exactement l'inverse. Il n'y a pas que du faux là-dedans, mais les choses ne sont pas aussi simples. En réalité, dès le début du récit biblique à propos de Salomon, plusieurs indices nous sont donnés qui montrent des choix discutables et même regrettables du jeune héritier royal. Par exemple, au début du chapitre 3, on a ce récit du mariage de Salomon avec la fille de Pharaon, et souvent on le lit comme un signe de grandeur, de la renommée de Salomon. On voit un peu Salomon et la fille du Pharaon comme les Brad Pitt et Angelina Jolie de l'époque, le couple glamour qui faisait rêver. Et la preuve, s'il en fallait, que Salomon n'était pas n'importe qui. Mais on fait sans doute fausse route en lisant le texte ainsi. La loi révélée par Dieu à Israël interdisait explicitement le mariage d'un ou d'une Israélite avec des personnes qui adoraient, avec une personne qui adorait d'autres dieux. Ça pouvait être un étranger s'il adorait le Dieu d'Israël. Aucun indice dans le texte ne nous dit, et ce serait plutôt le contraire d'ailleurs, que la fille du Pharaon a renoncé à l'adoration de ces fausses divinités. Et le Deutéronome, par ailleurs, dans la loi de Moïse, va même jusqu'à mettre en garde les rois d'Israël, par anticipation, contre une alliance avec l'Égypte. Chapitre 17, verset 16 du Deutéronome. Or, à l'époque, un mariage entre un roi et une princesse d'un autre royaume inévitablement impliquer une forme d'alliance. Et puis, à la fin du verset, c'est presque un peu rigolo de noter que le narrateur nous indique subtilement que Salomon a montré plus d'empressement à construire son propre palais qu'à bâtir le temple du Seigneur. Fin du verset 1, il amena donc la fille du Pharaon dans la ville de David, Jérusalem, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir, 1, sa propre maison, priorité, 2, la maison du Seigneur, et 3, le mur d'enceinte de Jérusalem. Donc, c'est un peu moi d'abord, le Seigneur ensuite, et puis le peuple en dernier. Et ce détail éclaire le verset qui suit. Si le peuple sacrifie dans les hauts lieux, c'est-à-dire en gros, on peut se demander ce que ça veut dire, improvise son propre culte du Seigneur plutôt que de se conformer à la loi de Moïse, eh bien c'est très vraisemblablement justement parce que Salomon n'a pas pris la peine pour l'instant de bâtir un temple pour Dieu. Et Salomon lui-même, le texte nous le précise, lui aussi adore dans les hauts lieux. Donc le jeune roi Salomon, s'il avait des qualités indiscutablement, n'est pas aussi exemplaire que cela. Cela dit, il faut reconnaître qu'il y a une rupture dans le récit au verset 3. Salomon, malgré ses défauts et ses infidélités, aime le Seigneur. Et on voit que cet amour ne compte pas pour rien aux yeux de Dieu. Et Salomon va montrer cet amour alors que Dieu lui demande de demander ce qu'il veut, verset 5, il demande non pas la richesse ou la gloire, mais la sagesse. Alors peut-être un mot sur cette étonnante intervention du Seigneur. Certains pourraient s'étonner, est-ce que Dieu, ici c'est un peu comme le génie dans la bouteille, fais un vœu et puis je te le donnerai. Non, le reste du texte montre qu'il s'agit plutôt d'une mise à l'épreuve. Dieu, dans son omniscience, sa souveraineté absolue, savait évidemment ce que Salomon allait demander, mais il a voulu donner au jeune roi l'occasion de prendre date, en quelque sorte, de s'engager, d'exprimer sa foi, de dire ouvertement qu'il préférait faire ce qui est juste aux yeux de Dieu plutôt que d'accumuler les victoires, les richesses. Et c'est vrai pour nous aussi dans notre vie de prière. Dieu nous invite à lui présenter nos requêtes, non pas parce qu'il a besoin qu'on lui apporte des informations qu'il n'aurait pas, mais parce qu'il nous permet ainsi de nous en remettre à lui, de lui exprimer notre confiance et de s'engager par nos paroles. Il nous invite ainsi à une relation authentiquement personnelle avec lui. Et puis Dieu a souverainement choisi dans bien des cas, si on peut dire, d'associer, d'attacher ces actes à nos prières, de sorte qu'il y a une vraie efficacité de la prière qui véritablement suscite une réaction de Dieu. Mais Dieu avait prévu cela, bien entendu. Et c'est ainsi que notre relation avec lui est pleinement dynamique. Je ferme la parenthèse. Revenons à Salomon. Jusque-là, il semble avoir recherché en premier lieu sa gloire, sa richesse, sa renommée. On le voit dans les deux premiers chapitres. Mais dans un moment de lucidité spirituelle, il comprend que le sens de la vie est ailleurs et que sa vocation est ailleurs. Il se souvient qu'il est appelé à servir un Dieu qui est entré en alliance avec son peuple et même avec son père, David. Il prend conscience que connaître ce Dieu et vivre avec lui et pour lui le comblera bien mieux que toutes les richesses du monde. Mais de quelle sagesse s'agit-il ? Les deux premiers chapitres des Rois nous présentent un jeune roi, quand il dit « je ne suis qu'un petit garçon », c'est une exagération, c'est un jeune homme. Un jeune roi intelligent, habile sur le plan politique, pourtant il lui manque la sagesse. Et on voit donc que ce n'est pas d'intelligence intellectuelle en premier lieu qu'il est question ici, même si l'intelligence intellectuelle est aussi un don du Seigneur. Dans ses célèbres proverbes, Salomon explicite ce qui met à part cette sagesse authentique. Le début de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Proverbe 8, verset 10. La crainte du Seigneur. Certains n'aiment pas trop ce mot crainte, et dans certaines traductions bibliques, on préfère traduire par respect ou dévotion. Mais faisons attention de ne pas évacuer entièrement la notion de crainte au sens positif. Parfois, nous devons nous rappeler qui est Dieu, nous rappeler qu'il est celui qui a créé l'univers, qu'il est infiniment grand et que sa grandeur nous échappera toujours. Dans la Bible, on voit que quand il arrive que des êtres humains goûtent un aperçu de la grandeur de Dieu, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tremblent, ils tombent face contre terre. C'est quand même pas n'importe qui, Dieu. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors c'est vrai, ce Dieu trois fois saint s'est fait connaître de nous, s'est rendu accessible en Jésus-Christ. Mais si ça nous conduit à le considérer avec légèreté, c'est qu'on n'a pas compris qui il est et qu'au fond, on n'a pas compris l'Évangile. La sagesse authentique, donc, c'est cette prise de conscience par laquelle on reconnaît la grandeur de Dieu, on reconnaît qu'on a été créé pour lui et qu'on dépend de lui pour toute chose. Et cette sagesse nous pousse à chercher en lui les ressources dont on a besoin pour vivre, puisqu'on comprend qu'on dépend de lui. Chercher les ressources dont on a besoin pour vivre auprès de Dieu, et ça va impliquer méditer les Écritures, on en reparlera notamment le 2 octobre, prier, cette recherche déterminée de faire ce qui est bon à ses yeux, dans les petites choses comme dans les grandes. Salomon comprend que la sagesse que donne ce Dieu saint est redoutable, eh bien c'est le don le plus précieux. Il va demander la sagesse parce qu'il la désire, pas par une sorte de devoir, de pur devoir qui ne serait que devoir, mais parce qu'il comprend que cette sagesse est un bien extraordinairement précieux. Est-ce que nous désirons la sagesse ? Je pose la question très sérieusement, je me la pose à moi aussi, parce que cela n'est pas du tout valorisé dans notre monde aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui valorise la passion du moment, la réalisation de soi, l'impulsion, l'expérience à tout prix. On voit bien où cela nous mène. Pessimisme, fatalisme, anxiété, amertume, regret. Plus que jamais, notre monde a besoin de sagesse. Or, il nous pousse à vouloir tout sauf ça. Saurons-nous, comme Salomon, avoir le désir de nous aligner sur les valeurs et les priorités de Dieu en désirant cette sagesse ? Et cette sagesse, elle commence, on l'a dit, par la crainte de l'Éternel. Pas une crainte qui paralyse, mais une crainte qui libère, une crainte qui remet à leur place les puissances de ce monde, politique, militaire, culturel, et qui nous remet à notre place aussi, à notre place de créature, dont la vocation est de vivre avec son Créateur et pour lui. Nous sommes une majorité de croyants aujourd'hui, mais il faut que nous nous posions cette question, est-ce que nous désirons cette vraie sagesse ? Ou est-ce que nous sommes tentés de lui substituer une spiritualité facile, un Dieu dispo quand on a besoin de lui, mais qu'on pourrait traiter avec légèreté ? Et ce matin, je voudrais nous lancer un premier défi, c'est de désirer la sagesse. Le désir, on ne risque pas de demander si on ne désire pas. Mais justement, par où commencer ? Eh bien, je pense qu'on peut dire que la sagesse divine fonctionne comme un cercle vertueux. Plus on désire, plus on demande, plus on demande, plus on désire, plus on reçoit, plus on goûte à cette sagesse. Il faut que nos désirs changent. Mais ensuite, et dans un sens, c'est même une première étape, il nous faut demander la sagesse. Et ce sera notre deuxième point, demander la sagesse. Salomon n'est pas un homme modèle, on l'a vu, c'est un pécheur comme nous, donc on peut bien s'identifier à lui. Et sa prière des versets 6 à 9 pourrait nous servir de modèle. Salomon commence par exprimer sa reconnaissance pour la fidélité de Dieu, pour l'alliance qu'il a conclue avec son peuple. Et dans sa prière, Salomon voit tout de suite plus loin que le bout de son nez. Il est conscient de l'œuvre vaste et souveraine de Dieu. Et bien souvent, quand nous prions, j'ai l'impression que nous sautons cette étape pour passer tout de suite à la demande. Et moi le premier. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de place dans notre vie de prière pour parfois des cris du cœur face à une situation de grande difficulté, de crise. Et c'est légitime, on voit cela dans les psaumes, entre autres. Mais dans notre pratique régulière de la prière, j'espère que nous en avons une, il me semble que nous serons enrichis dans cette pratique si nous commençons par une vision panoramique de l'œuvre de Dieu. Si nous nous rappelons qui il est et ce qu'il a fait. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, dit le cantique. Alors souvent on le chante avant les repas, et c'est très bien. Mais les bienfaits de Dieu, bien sûr, ce n'est pas seulement mon plat de spaghettis. C'est d'abord les actes glorieux et puissants de Dieu dans l'histoire. Il s'est révélé, il s'est fait connaître à nous. Il nous a envoyé un sauveur et seigneur parfait en Jésus-Christ. Comme Salomon, commençons dans nos prières, en tout cas dans beaucoup de nos prières, commençons par nous rappeler qui Dieu est et ce qu'il a fait pour nous. Salomon poursuit en reconnaissant son insuffisance totale devant Dieu. Lui, le roi d'Israël, il dit, verset 7, « Je ne suis qu'un petit garçon, je ne sais rien faire. » C'est honnête, je ne sais rien faire. Alors, il ne s'agit pas de s'écraser, de renier toute valeur ou don qui nous aurait été donné de Dieu, alors que nous sommes, la Bible nous le dit par ailleurs, des créatures merveilleuses faites à l'image de Dieu. Mais il s'agit de reconnaître justement que nous sommes créatures, que nous devons tout à Dieu jusqu'à l'air que nous respirons, même si on n'y pense que trop rarement. Et Dieu est infiniment plus sage que nous, et donc il est juste de se tourner vers lui pour chercher la sagesse. Salomon, donc, commence par reconnaître qui Dieu est, et puis reconnaître qui il est. Il a posé le bon cadre pour exprimer sa demande, le cadre de la sagesse. Ce n'est pas la demande de quelqu'un qui réclame son dû auprès d'un patron grincheux. Ce n'est pas la demande d'un assuré spirituel qui attend qu'on lui verse ses prestations. C'est la demande audacieuse, joyeuse, pleine de foi, d'une créature à son créateur, d'un enfant à son père. Or, le texte nous montre que cette demande, elle touche le cœur de Dieu. Verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu s'explique, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, la richesse, la mort de tes ennemis, mais l'intelligence, autrement dit la sagesse, synonyme ici, j'agirai selon ta parole. Salomon a cherché les valeurs de Dieu plutôt que les siennes, il a désiré la sagesse. Et nous alors ? Est-ce que la situation de Salomon, finalement, c'est à des années-lumière de nous ? C'est il y a 30 siècles, il était roi d'Israël, nous on est roi de rien du tout. Non, c'est là que nous en venons à Jacques chapitre 1, qui a été écrit à des chrétiens lambda, si j'ose dire, comme nous. Jacques chapitre 1, verset 4. « Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Et je n'hésite pas à dire que ce verset peut changer nos vies. C'est une promesse inattendue et stupéfiante. Vous avez besoin de sagesse, vous n'avez qu'à demander. Dieu nous dit ici que ce qu'il y a de plus précieux pour vivre nos vies, la sagesse qui vient de lui, ce bien qui est tellement plus précieux que tout ce que le monde peut nous offrir, eh bien, Dieu n'a qu'une envie, c'est de nous le donner. Il nous suffit de demander. Promesse renversante. Alors là, certains diront, attention, il y a une suite. Et c'est vrai, je lis à partir du verset 6, mais qu'il la demande avec foi, sans la moindre hésitation. Car celui qui hésite est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur, c'est un homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Et souvent, on est découragé en lisant ce verset. On le lit comme s'il annulait la promesse magnifique du verset 15. Comme si Dieu nous promettait quelque chose, mais ensuite ajoutait une condition impossible à remplir. Un peu comme ces publicités qui font miroiter un truc incroyable, et puis il y a le petit astérisque. Puis quand on regarde en bas, on se dit, ah oui, d'accord. En fait, les conditions sont tellement exigeantes que la promesse est annulée. Et on pense cela en lisant ce verset, parce qu'on croit que Jacques ici nous invite à un exploit de foi, une perf de la foi, une sorte de record du monde que personne n'a jamais réalisé. Et il faut demander sans la moindre hésitation. Je me concentre. Sans l'ombre d'un doute. J'ai longtemps lu ce verset un peu comme ça. Et la bonne nouvelle, c'est que je pense que c'est une fausse lecture de ce verset. Jacques ne dit pas que nous devons réussir à évacuer tout questionnement, toute question. Une lecture attentive de cette lettre montre que l'homme à l'âme partagée, ce n'est pas quelqu'un qui a des questionnements ou des craintes, mais c'est surtout quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Il se dit que la sagesse de Dieu, oui, ça paraît bien, mais la sagesse du monde, c'est pas mal aussi. Il demande la sagesse, mais ne la désire pas tant que ça. Il veut rester maître de sa propre vie. Il veut bien que Dieu lui donne un coup de main face à telle ou telle situation, c'est toujours appréciable, mais il n'a pas de désir profond de réorienter profondément sa vie selon la crainte du Seigneur. C'est cet homme-là qui ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Il a l'âme partagée. Et reconnaissons-le, cet homme-là, ou cette femme-là, c'est parfois vous et moi. Mais la promesse du verset 5 demeure. Dieu est généreux et il a envie de nous donner la sagesse. Alors désirons cette sagesse de tout notre cœur, c'est là la clé. Et demandons cette sagesse. Pas en essayant d'atteindre une concentration maximale pour essayer d'évacuer le moins de questionnements, mais en disant à Dieu, Seigneur, refléter tes priorités, refléter ton cœur, ta pensée, c'est plus important pour moi que toute autre chose. Et je désire cette sagesse. C'est elle que je veux et non pas la fausse sagesse de ce monde. Donne-moi ta sagesse, je t'en prie. Et on l'a déjà vu tout à l'heure, ça passe par un désir orienté vers ce que Dieu veut nous donner. Comme l'écrivait C.S. Lewis, notre problème, ce n'est pas que nous désirons trop, mais que nous ne désirons pas assez. On se contente de piètres plaisirs sans comprendre que la plus grande des joies et des abondances se trouve en Dieu. Et ce que ce texte nous dit d'incroyable, c'est qu'il n'y a pas de suspense. Dieu dira oui. Dieu répond toujours oui aux prières qu'il nous invite lui-même à faire. Quand Dieu nous dit « Je veux que tu aies cela et je t'invite à me le demander », ce n'est pas pour dire ensuite « Ah non, désolé ». Alors, il y a des choses que nous demandons légitimement et auxquelles nous ne savons pas comment Dieu va répondre. Des choses qui concernent notre vie pratique, notre santé, notre vie de famille. Mais Dieu nous invite, je crois, j'ai déjà eu l'occasion de dire cela, il me semble qu'il nous invite à nous concentrer d'abord, en priorité, sur les choses qu'il nous invite lui-même à demander. Sur ses bienfaits qu'il veut nous donner, on en est sûr, il n'y a pas de doute, et qu'il nous invite à lui demander. Et bien sûr, de lui demander aussi les autres choses, c'est tout à fait juste. Il me semble que c'est cela aussi, chercher d'abord le royaume de Dieu. Et on voit ça dans l'exemple de Salomon. Dieu lui accorde la sagesse, et puis il choisit, sa grâce surabonde, il choisit de le combler en lui accordant aussi d'autres bienfaits. Alors en tant qu'Église, et chacun dans nos vies individuelles, désirons la sagesse, réorientons nos priorités et demandons la sagesse. Dieu ne nous la refusera pas. Ce serait tellement dommage de passer à côté. Le bien le plus précieux qu'on puisse imaginer est disponible pour nous aujourd'hui. La sagesse doit être désirée et demandée. Mais l'exemple de Salomon, l'exemple de sa vie, nous montre qu'elle doit aussi être cultivée. Ce sera brièvement notre dernier point et une conclusion en même temps. Cultiver la sagesse. L'exemple de Salomon pourrait nous inquiéter, parce qu'on le voit ici qui demande la sagesse, sincèrement, semble-t-il, et Dieu lui accorde sans condition, et pourtant Salomon a assez mal fini. Il a multiplié les conquêtes féminines sous couvert de polygamie tolérée à l'époque. Il s'est laissé fasciner par les idoles adorées par ces femmes qu'il a épousées, notamment, au point de basculer dans une sorte de syncrétisme. Il est peu probable que Salomon ait complètement tourné le dos au Dieu d'Israël, mais disons qu'il a un peu mélangé tout ça et finalement il aurait été chez lui à notre époque. Croire en Dieu, pourquoi pas, à condition qu'il n'y ait pas d'engagement exclusif, que je puisse vivre comme je l'entends. Je pose ces conditions-là et après il n'y a pas de problème. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous invite à le suivre. Alors que s'est-il passé? Où est la sagesse? Est-ce que Dieu finalement est revenu sur sa réponse à la prière de Salomon? Il me semble que, et nous n'avons pas l'occasion de voir en détail tous les textes qui nous parlent de la fin de la vie de Salomon, mais il me semble que la clé pour comprendre cela, c'est que Salomon, il a désiré la sagesse, il l'a demandée et reçue, mais il l'a, semble-t-il, considérée ensuite comme un acquis, quelque chose dont il pouvait faire usage quand c'était utile, piocher dedans quand il en avait besoin, au lieu de cultiver cette sagesse au quotidien et notamment dans sa relation avec Dieu. Sans aller aussi loin que Salomon, je pense que nous avons tendance à demander la sagesse à quel moment? Lorsque nous faisons face à une grande décision. Et là, on prie pour la sagesse parce qu'on a un entretien d'embauche, parce qu'on envisage peut-être de se marier, etc. Et c'est très bien de demander la sagesse dans ces moments-là, on en a besoin. Mais le faire uniquement à ces moments-là, c'est un peu comme vouloir courir un marathon alors qu'on fait aucun exercice le reste de l'année. Et sans s'en rendre compte, on a tendance à voir la sagesse de Dieu comme une sorte de révélation ponctuelle, alors que Dieu nous appelle plutôt à une vie de sagesse. Une vie dans laquelle nous recherchons constamment, et ça devient comme un réflexe, constamment à faire ce qui lui plaît, à méditer les Écritures qui nous révèlent ses projets et son caractère, en cultivant des valeurs bibliques qui forgent notre caractère et qui nous donnent les outils nécessaires pour prendre des décisions sages. Alors comment ne pas faire comme Salomon et demeurer dans la sagesse de Dieu? D'abord, reconnaissons que nous n'y arriverons pas parfaitement et que c'est uniquement par la grâce de Dieu que nous pouvons emprunter ce chemin de la sagesse, du début à la fin. Mais ayant dit cela, le mode d'emploi est simple. Le mode d'emploi est simple. Demandons cette sagesse. Pas juste à quelques moments décisifs de la vie, mais régulièrement, si possible, quotidiennement. Et puisque le début de cette sagesse, c'est la connaissance du Seigneur, eh bien, ça implique de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, régulièrement, en méditant les Écritures, individuellement, mais aussi en tant qu'Église. D'ailleurs, l'Église est un cadre essentiel pour nous encourager les uns les autres à désirer, demander, cultiver cette sagesse. Alors, pour cette nouvelle saison, si on peut dire, qui commence, ou qui est en train de commencer, mais bien au-delà, pour toute la vie, apprenons à désirer la sagesse, à la demander, à la cultiver. Dieu ne nous la refusera pas. Amen.